18. Ce soir-là, Ralph Anderson et l'inspecteur Yunel Sablo se réunirent au domicile de Bill Samuels, situé dans le nord de la ville, au cœur d'un quartier presque chic, constitué de maisons qui se donnaient de grands airs. Dehors, dans le jardin, les deux filles du procureur se couraient après en passant entre les jets d'eau de l'arrosage automatique, tandis que le crépuscule cédait peu à peu le pas à la nuit. L'ex-femme de Samuels était restée afin de leur préparer un dîner, au cours duquel le procureur s'était montré d'humeur enjouée, tapotant parfois la main de son ex, allant même jusqu'à la tenir brièvement dans la sienne, sans qu'elle y trouve matière à redire. Un comportement plutôt chaleureux de la part d'un couple divorcé, et tant mieux pour eux. Mais maintenant que le repas était fini, l'ex-épouse rassemblait les affaires des filles, et Ralph devinait que c'en serait bientôt fini aussi de la bonne humeur du procureur. L'ouvrage, une histoire illustrée de Flint County, Dury County et Canning Township, trônait sur la table basse dans le bureau. Il était soigneusement enveloppé dans un sac en plastique transparent provenant de la cuisine de Ralph. La photo de la procession funéraire semblait floue maintenant, car le film plastique avait été saupoudré de révélateurs d'empreintes digitales. Une empreinte unique, un pouce, ressortait sur la couverture, près du dos, parfaitement nette. « Il y en a quatre autres, aussi nettes, derrière », précisa Ralph. « C'est de cette façon qu'on prend un gros livre. Le pouce devant, les autres doigts derrière, légèrement écartés pour bien le tenir. J'aurais pu le relever directement là-bas, à Cap City, mais je n'avais pas les empreintes de Terry pour comparer. Alors je suis passé chercher tout ce dont j'avais besoin au poste et je l'ai fait chez moi. » Samuels haussa les sourcils.
« Vous avez sorti la fiche d'empreinte ?»«
Non, je l'ai photocopiée. »« Allez, ne faites pas durer le suspense, » dit Sablo.
« Très bien. » Elles correspondent. Les empreintes qui sont sur ce livre sont bien celles de Terry Maitland.
Le monsieur soleil éclatant qui avait dîné à côté de son ex-femme disparut. Monsieur Il va pleuvoir méchamment le remplaça.
Vous ne pouvez pas l'affirmer sans connaître le verdict de l'ordinateur.
Bill, j'analysais déjà des empreintes avant l'arrivée de l'ordinateur. À une époque où on essayait encore de regarder sous les jupes des filles pendant l'étude au lycée. Ce sont bien les empreintes de Maitland, et l'ordinateur le confirmera. Regardez. Il sortit de sa poche intérieure de veste un petit paquet de fiches cartonnées qu'il étala sur la table basse, sur deux rangées. Voici les empreintes de Terry relevées à la prison hier soir. Et voici celles retrouvées sur la couverture plastique du livre. Dites-moi ce que vous en pensez. Samuels et Sablo se penchèrent en avant pour examiner les fiches du haut, puis celles du bas. Sablo fut le premier à se redresser.
« Je confirme. »«
J'attends l'analyse de l'ordinateur, » dit Samuels.
Les mots sortirent de sa bouche légèrement déformés, car sa mâchoire saillait bizarrement. Dans d'autres circonstances, cela aurait pu être amusant. Ralph ne répondit pas immédiatement. Bill Samuels l'intriguait, et il espérait, en optimiste qu'il était, que son premier jugement, le jeune procureur était du genre à battre en retraite face à une contre-attaque vigoureuse, était erroné. Son ex-femme avait encore de l'estime pour lui, ça se voyait, et ses fillettes l'adoraient. Mais ces éléments ne concernaient qu'une seule facette de la personnalité d'un individu. Dans sa vie privée, un homme n'était pas nécessairement le même qu'au travail, surtout si cet homme était ambitieux et se retrouvait confronté à un obstacle inconnu susceptible de faire avorter tous ses grands projets. Aux yeux de Ralph, ces choses-là comptaient. Elles comptaient même énormément. Car Samuels et lui étaient liés par cette affaire, pour le meilleur et pour le pire.
C'est impossible,
dit le procureur, en portant instinctivement sa main à son crâne pour écraser son épi. Mais ce soir, l'épi se tenait tranquille.
Maitland ne pouvait pas être à deux endroits en même temps.
Pourtant, on dirait bien, répondit Sablo. Jusqu'à présent, on n'avait aucune preuve scientifique en provenance de Cap City. Maintenant, on en a une.
Le visage de Samuels s'illumina.
« Il a peut-être manipulé ce livre antérieurement, afin de préparer son alibi. C'est un coup monté !»
Apparemment, il avait oublié sa théorie précédente selon laquelle le meurtre de Frank Peterson était l'œuvre d'un homme incapable de réfréner ses pulsions.
« Cette hypothèse ne peut pas être rejetée, » dit Ralph. « Mais des empreintes, j'en ai vu dans ma carrière, et celles-ci me paraissent très récentes. La définition des crêtes papillaires est excellente. » Ce ne serait pas le cas si ces empreintes dataient de plusieurs semaines ou plusieurs mois. D'une voix presque inaudible, Sablo dit
« Madre de Dios, c'est comme demander une carte à 12 et tirer une figure.
Hein ?»
fit Samuels, en tournant vivement la tête.
« C'est du blackjack, » expliqua Ralph. « Il veut dire par là qu'il aurait mieux valu qu'on ne trouve pas ses empreintes. On aurait dû camper sur nos positions. »
Tous trois réfléchirent à cette remarque. Quand Samuels reprit la parole, ce fut du ton presque détendu qu'on adopte dans une conversation mondaine.
« Je vous livre une hypothèse. Supposons que vous ayez passé cette couverture plastique au révélateur sans rien trouver. » Ou juste quelques vagues empreintes non identifiables.
On ne serait pas plus avancé, répondit Sablo.
Samuel s'acquiesça.
Dans ce cas, toujours de manière hypothétique, Ralph serait dans la peau d'un gars qui a acheté un livre cher. Voilà tout. Au lieu de le jeter, il se dirait que c'est une idée qui n'a pas porté ses fruits. Et le rangerait sur une étagère. Après avoir enlevé et mis à la poubelle la couverture plastique, évidemment.
Sablo regarda Samuels et Ralph tour à tour. Son visage demeurait impénétrable.
« Et les fiches d'empreintes ?» demanda Ralph. « On en fait quoi ?»«
Quelle fiche ?»
demanda Samuels.
« Je ne vois aucune fiche. Et vous, Yunel ?»«
Je ne sais pas si je les vois ou pas. »«
Vous parlez de détruire des preuves ?» dit Ralph.
« Absolument pas. Tout cela est purement hypothétique. »
De nouveau, Samuel se leva la main pour aplatir l'épi inexistant.
Mais c'est une chose qu'il faut envisager, Ralph. Vous êtes d'abord passé au poste, mais vous avez effectué la comparaison chez vous. Votre femme était présente?
Non. Jenny assistait à une réunion de son club de lecture.
Regardez. Ce livre n'est même pas emballé dans un sac réglementaire, et il n'a pas été enregistré comme pièce à conviction.
Pas encore, répondit Ralph. Mais au lieu de penser aux différentes facettes de la personnalité de Bill Samuels, il se trouvait maintenant contraint de penser aux différentes facettes de la sienne.
« Je dis juste que cette éventualité se nichait peut-être dans un coin de votre esprit. »
« Vraiment ?»
Honnêtement, Ralph ne pouvait pas répondre. « Et si tel était le cas, pourquoi ? Pour éviter une vilaine tâche dans sa carrière, maintenant que toute cette histoire, après avoir dérapé, menaçait carrément de chavirer cul par-dessus tête.
« Non, » dit-il, « ce livre va être enregistré et versé au dossier. Car un enfant est mort, Bill, et ce qui peut nous arriver n'est rien comparé à cela. »«
Je suis d'accord, » déclara Sablo.
« Évidemment, »
dit Samuels. Il paraissait fatigué.
« Le lieutenant Yunel Sablo survivra, quoi qu'il arrive. »
En parlant de survie, dit Ralph. Quid de Terry Maitland, si on s'est réellement trompé de coupable ?
Non,
affirma Samuels.
L'épreuve affirme que non.
La discussion s'acheva sur cette déclaration. Ralph retourna au poste. Là, il enregistra une histoire illustrée de Flint County, Dury County et Canning Township comme pièce à conviction, et le livre alla rejoindre le dossier déjà épais. Il était soulagé de s'en débarrasser. Alors qu'il faisait le tour du bâtiment pour récupérer sa voiture personnelle, son portable sonna. Le visage de sa femme apparut sur l'écran, et quand il répondit, il fut affolé par le ton de sa voix. « Tu as pleuré, ma chérie ?»«
Derek m'a appelé, de Colo. »
Le cœur de Ralph s'emballa. « Il va bien ?»«
Oui, ça va. Physiquement, en tout cas. Mais des camarades lui ont envoyé des mails au sujet de Terry et il est bouleversé. Il dit que c'est forcément une erreur. Coach T ne peut pas avoir fait une chose pareille. »
Oh, ce n'est que ça. Ralph se remit à marcher, tout en cherchant ses clés de voiture.
Non, il n'y a pas que ça,
répondit Jenny d'un ton ferme.
Où es-tu?
Au poste, je rentre à la maison.
Pourrais-tu passer à la prison d'abord, pour lui parler?
À Terry? Oui, je pourrais, s'il accepte de me voir. Pourquoi?
Oublie toutes les preuves un instant. Des deux côtés. Et réponds à ma question, sincèrement, du fond du cœur, tu veux bien?
Ok.
Il entendait le bourdonnement lointain des camions sur l'autoroute. Plus près, le chant paisible des criquets dans les herbes qui poussaient le long du bâtiment de briques où il travaillait depuis si longtemps.
Il savait ce que sa femme allait lui demander.
Crois-tu que Terry Maitland ait tué ce petit garçon ?
Ralph songea à cet homme qui était monté dans le taxi de Willow Rainwater pour se rendre à Dubrow et l'avait appelé « Madame » au lieu de l'appeler par son nom, qu'il aurait dû connaître. Ce même homme qui avait garé sa camionnette blanche derrière le Shorty's Pub et demandé la direction du centre médical le plus proche, alors que Terry Maitland avait vécu à Flint City toute sa vie. Il pensa à ses professeurs qui jureraient que Terry était avec eux au moment de l'enlèvement et du meurtre. Puis, il songea que c'était vraiment un heureux hasard que Terry se soit levé pour poser une question à Harlan Coben, comme s'il voulait être sûr qu'on le voit et qu'on le filme. Jusqu'aux empreintes sur le livre. Tout cela n'était-il pas trop parfait ?
Ralph, tu es toujours là ?
Je ne sais pas, avoua-t-il. Peut-être que si j'avais été coach avec lui, comme Howie, mais je l'ai juste vu entraîner Derek. Alors, pour répondre à ta question, sincèrement, du fond du cœur, je ne sais pas.
Alors va le voir. Regarde-le droit dans les yeux et demande-lui.
Samuels risque de me faire la peau s'il l'apprend.
Je me fous de Bill Samuels, mais j'aime notre fils, et je sais que toi aussi. Fais-le pour lui, Ralph. Pour Derek.
19. Il s'avéra qu'Arlene Peterson avait souscrit une assurance d'essai, et c'était une bonne chose. Holly trouva les documents dans le tiroir du bas du petit bureau de sa mère, à l'intérieur d'une chemise glissée entre crédit maison, crédit qu'ils avaient presque fini de payer, soit dit en passant, et garantie électroménager. Il appela l'entreprise de pompes funèbres, où un homme à la voix douce de professionnel du deuil, peut-être un des frères Donnelly en personne, le remercia et lui annonça
« Votre mère est arrivée. »
Comme si elle s'était rendue sur place toute seule, en Uber par exemple. Le professionnel du deuil demanda ensuite à Holly s'il avait besoin d'un formulaire de notice nécrologique pour le journal. Holly répondit que non. De fait, il avait devant les yeux, là, sur le bureau, deux de ses formulaires vierges. Sa mère, toujours prévoyante, même dans le chagrin, avait dû photocopier celui qu'elle avait reçu pour Frank, au cas où elle se tromperait. Encore une bonne chose. Souhaitait-il venir le lendemain pour régler les détails de la cérémonie et de l'inhumation ? Holly répondit que c'était plutôt à son père de s'en charger. La question des frais d'obsèques étant réglée, Holly appuya sa tête sur le bureau et pleura quelques instants, en silence, afin de ne pas réveiller son père. Quand les larmes se tarirent, il remplit le formulaire de la notice nécrologique, en majuscule, car il y avait une écriture épouvantable. Cette tâche terminée, il se rendit dans la cuisine et contempla les dégâts. Les pattes répandues sur le lino, la carcasse de poulet qui gisait sous la pendule. Toutes ces boîtes tupperwares, tous ces plats recouverts de papier d'alu sur le comptoir. Ce spectacle lui rappela une phrase que sa mère disait toujours après les repas de famille.
« Quelle porcherie !»
Il prit un grand sac poubelle sous l'évier et le remplit, en commençant par la carcasse de poulet, particulièrement repoussante. Après quoi, il lava le sol. Quand tout fut propre comme un sou neuf, encore une expression de sa mère, Holly s'aperçut qu'il avait faim. Même si cela paraissait inconvenant, c'était une réalité. Les êtres humains, constata-t-il, étaient foncièrement des animaux. Votre mère et votre petit frère venaient de mourir, mais vous deviez continuer à manger et à chier ce que vous mangiez. Le corps l'exigeait. Ouvrant le réfrigérateur, il le découvrit rempli de haut en bas d'autres plats cuisinés. D'autres boîtes tupperwares, d'autres assiettes de viande froide. Il choisit un hachis parmentier dont le dessus évoquait une plaine enneigée et l'enfourna à 180. Alors qu'il attendait que le hachis chauffe, adossé au plan de travail, en ayant l'impression d'être un visiteur dans sa propre tête, son père entra dans la cuisine, d'un pas lent, les cheveux en bataille.
« Tu es tout hirsute !»
aurait dit Arlene Peterson. Il avait besoin de se raser. Ses yeux étaient gonflés et vitreux.
« J'ai pris un des cachets de ta mère et j'ai dormi trop longtemps.
Ne t'inquiète pas pour ça, papa.
Tu as tout nettoyé. J'aurais dû t'aider.
C'est rien.
Ta mère. L'enterrement. »
Fred Peterson semblait incapable de trouver les mots et son fils remarqua que sa braguette était ouverte. Il ressentit une vague pitié.
Malgré cela, il n'avait plus envie de pleurer, comme s'il avait vidé toutes ses larmes, pour le moment du moins. Ça aussi, c'était une bonne chose. « Je dois compter tous les points positifs », se dit Holly.
« On est paré », annonça-t-il à son père. « Maman avait souscrit une assurance d'essai pour vous deux. Et elle est arrivée, là-bas, aux pompes funèbres. »
Il ne voulait pas prononcer le mot « funérarium », de crainte de provoquer un nouvel effondrement de son père ou le sien.
« Ah, tant mieux. »
Fred s'assit et appuya son front sur le talon de sa main.
« C'est moi qui aurais dû m'en occuper. C'est mon rôle, ma responsabilité. Je ne pensais pas dormir si longtemps. Tu iras demain. Tu pourras choisir le cercueil et tout ça. Où ? Chez les frères Donnelly, comme pour Frank. »« Elle est morte, » dit Fred, d'un ton incrédule. « Je n'arrive même pas à réaliser. »«
Je sais, » répondit Holly, qui pourtant ne pensait qu'à ça. Sa mère n'avait cessé de s'excuser jusqu'à la fin, comme si elle était responsable de tout ce malheur.
« Le type des pompes funèbres dit que tu dois faire certains choix, tu t'en sens capable ?»« Oui, bien sûr, demain ça ira mieux. Il y a quelque chose qui sent bon. Du hachis parmentier. C'est ta mère qui l'a fait ou quelqu'un qui l'a apporté ?»« Je sais pas. En tout cas, ça sent bon. »
Ils mangèrent dans la cuisine. Ensuite, Holly déposa leurs assiettes dans l'évier car le lave-vaisselle débordait. Puis ils se rendirent dans le salon. ESPN passait du baseball maintenant, les Phillies contre les Mets. Ils regardèrent le match sans parler, chacun explorant à sa manière les contours du trou qui était apparu dans leur vie, afin de ne pas tomber dedans. Au bout d'un moment, Holly sortit sur le perron de derrière et s'assit pour contempler les étoiles. Innombrables. Il aperçut une météorite, un satellite et plusieurs avions. Il songea que sa mère était morte et qu'elle ne verrait plus toutes ces choses. Cela lui paraissait absurde. Quand il rentra dans la maison, le match de baseball toucha sa fin et son père dormait dans son fauteuil. Holly déposa un baiser sur son front. Son père ne réagit pas.